est 20h02 et tout de suite retrouver une nouvelle émission de Génération Sport.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio G, bienvenue sur le 101.5. Nous sommes ravis de vous accueillir au sein de Génération Sport pour vous parler de toute l'actualité sportive du 49, de la France et de l'international. Forcément, il y a énormément de choses à dire dans cette émission, comme chaque semaine vous allez nous dire, mais voilà, on va quand même fêter la grosse info du week-end, le gros tempo, le gros moment pour le SCO, et forcément on va longuement le débriefer. Il y aura pas forcément que du SCO ce soir, parce qu'on va parler basket avec Faustin comme à son habitude. On va évoquer toute l'actualité du sport dans le 49, on va évoquer aussi le hand avec les championnats du monde actuellement. On va évoquer aussi la NBA, donc avec le NBA Paris Game qui a lieu donc jeudi soir. On va évoquer la Ligue des Champions, l'Open d'Australie. On a un gros sommaire ce soir, et pour évoquer l'ensemble de ces sujets, nous avons bien évidemment Faustin. Comment vas-tu?
Salut Florian, salut tout le monde, ça va très bien. Avec une victoire pour moi ce week-end, une fois de plus, de 15 points d'écart. J'ai mis 11 fois moins de points que Marin, qui était notre invité de la semaine dernière, parce que j'ai mis que 3. Ouais. Mais j'ai fait un match à zéro faute, première fois de la saison.
Et j'ai appris la semaine dernière que nous avons l'un des plus gros trash talkers du 49 dans l'émission. Le réalisateur de l'émission aime bien trash talker, aime bien provoquer. Et ça m'a un peu surpris, mais maintenant quand j'y repense, je me dis, ouais quand même, si, il doit le faire quand même, il doit le faire. On a un buteur ce week-end, enfin au niveau du SCO, qui s'appelle Esteban Le Poll, qui a été formé à l'Olympique Lyonnais. Voilà. Et donc il nous fallait le plus gros spécialiste de l'Olympique Lyonnais. Alors force à Mathéo qui n'est pas là ce soir, parce que Mathéo est quand même supporter de l'Olympique Lyonnais, mais il nous fallait quand même du lourd, et on a récupéré notre Alex. Comment vas-tu?
Ça va bien Florian, et oui, un supporter un peu moins heureux en ce moment, mais...
Oui, bien évidemment.
Mais non, sinon, à part ça, ça va, très ravi d'être là, un peu dans ma deuxième maison, ouais. Toujours très à l'aise ici.
C'est ça.
Et donc, bah voilà, ravi d'être avec vous pour parler de sport.
Mon avantage, c'est qu'on va pouvoir parler de hand aussi avec toi, parce qu'il y a quand même une grosse compétition internationale. Exactement. De handball.
Avec un match ce soir qui va être important, je pense.
Ouais, décisif pour savoir un peu à quoi on peut s'attendre dans cette compétition. On salue Amaury aussi, notre second spécialiste handball qui n'est pas là ce soir. On salue Cédric également aussi, parce que bon, bah voilà, ils sont pas là ce soir, mais on pense fort à eux et ils seront de retour très très prochainement. Mais en tout cas, on va pouvoir évoquer tout cela ensemble. On va commencer avec l'actu du 49 et on va finir forcément avec le SCO pour vraiment s'étaler dessus. D'ailleurs, en parlant du SCO, les U19 du SCO se sont imposés face à Guingamp 2-1 ce week-end. Beaucoup de dans le même temps a perdu du côté de Nantes 4-0. Très peu de championnats cette semaine, parce que c'est normal, c'était la Coupe des Pays de la Loire, la Coupe de l'Anjou et le Challenge de l'Anjou. Mais on va résumer un peu cela avec la Coupe des Pays de la Loire, avec Brissac qui est toujours en course, qui a battu l'équipe 2 des Herbiers 3-1. En Coupe de l'Anjou, beaucoup de s'est imposé, excusez-moi, contre Montreuil Junier 4-2 à l'extérieur. T'étais au match? Et ouais. Ça s'est bien passé?
Franchement pas mal. Ah, il faisait froid par contre, je tiens à souligner. Ouais. Mais le match très sympa en fait.
T'es pour Ouest-France?
Ouais, c'était pour Ouest-France. Ah, ouais. Et en gros, le match, pour raconter rapidement, si ça vous intéresse.
Bien sûr.
Le début de match en fait, au bout de même pas une minute de jeu, le gardien fait une sortie très hasardeuse.
Le gardien de
Montreuil.
De Montreuil.
Et bute quasiment du milieu de terrain de Bocouzé sur un lob franchement bien senti. Donc ça commence très mal. Et au bout de même pas deux minutes après, le gardien, donc encore de Montreuil, glisse dans sa surface et bute. Pour Bocouzé, ça fait 2-0 au bout de 4 minutes. Ouais. On se dit à ce moment-là, surtout qu'il y a, donc c'est de la R1 Bocouzé, ouais. Et R2 pour Montreuil. On se dit que c'est fini. Ils mettent le troisième avant la mi-temps. Là, pareil, on se dit c'est fini. Et finalement, donc Montreuil revient bien. Montreuil a joué assez haut sur le terrain, ouais. A commencé à attaquer. Et donc, il y a eu deux buts quand même des Montreuillais qui sont revenus à 3-2. Ça a poussé pour égaliser. Et finalement, but dans le temps additionnel pour Bocouzé qui se qualifie. Mais un match assez sympathique quand même.
Ouais, dans le froid du coup.
Dans le froid, j'avoue que c'est assez dur.
C'est très dur d'être correspondant sportif actuellement. Oui, c'est vrai que j'ai fait du coup les U19 du SCO contre Guingamp. Dimanche après-midi aussi.
C'est dur.
C'est très dur.
En tout cas, en ce moment, c'est dur. On préfère le basket parce que j'étais aussi à Lamboisière et un peu plus tranquille. On est assis, c'est bien.
C'est vrai. Mais quand moi, je travaille à l'ancienne, j'aime bien écrire avec mon papier et mon crayon. Là, les mains sont frigorifiées.
Ah ouais, mais c'est très dur. Pareil sur mon téléphone. Et en fait, à un moment donné, mes doigts suivent plus, quoi. C'est horrible, vraiment.
Pensez une petite chaufferette, on va investir, exactement. Mur et Rignier, eux, sont inclinés 3-0 contre Saint-Sylvain d'Anjou. La Vaillante a, elle, battu Pelouaille 2-0. Ça, c'est du côté du football. On va passer maintenant avec le basket. Faustin, qu'est-ce qui s'est passé dans la planète basket du 49?
On va commencer avec des mauvaises nouvelles. Et malheureusement, on retourne du côté de l'EAB avec une défaite 74-61 à Vitré. Les Angevins n'arrivent toujours pas à lancer une dynamique. Après la très bonne victoire face à Tarbes la semaine dernière, on y croyait. On aurait pu espérer que la série puisse se lancer, mais non. Ils chutent face à Vitré. Et c'est pas lors du prochain match que ça pourra se lancer, parce qu'ils jouent Quimper, premier du classement, seulement de deux défaites à leur actif cette saison. Faut pas compter sur ce match pour tenter de lancer une dynamique. Du côté de l'UFA maintenant, elle remporte leur match retour d'Eurocup contre le Beşiktaş, mais de seulement 10 points. Or, il fallait une victoire d'au moins 13 points pour passer au tour suivant. C'est dommage, je pense que l'équipe peut surtout s'en vouloir au match aller, où elles n'ont pas vraiment fait le taf et ont cédé beaucoup de points dans la deuxième mi-temps. Maintenant, les bonnes nouvelles du côté du basket, c'est toujours du côté de Cholet, avec deux nouvelles victoires pour eux cette semaine. La première en Coupe d'Europe face au Portel, 92-60, une victoire facile. Et la seconde en Betclic, 96-86 contre Limoges. Toujours une grande domination à chaque match, on n'a pas peur du côté de Cholet et c'est vraiment impressionnant. Et évidemment, il reste leader du championnat de Betclic Elite.
Exactement, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Chaque semaine, on en parle et chaque semaine, on est ravis de pouvoir évoquer le Cholet Basket. On fait juste un parallèle rapidement. On va évoquer la NBA tout à l'heure, mais on n'aura peut-être pas forcément le temps d'évoquer Tidiane Salin, parce que du coup, c'est un ancien quand même de joueur du 49 Cholet, ouais. De Cholet Basket, qui a été envoyé en G-League cette semaine. Donc maintenant, à quoi on peut s'attendre, Faustin, pour lui, pour reprendre un peu de confiance?
On sait qu'il était blessé, ouais. À un moment il a eu du mal à revenir alors qu'avant il était titulaire à Charlotte. Donc j'espère que c'est que les dirigeants l'ont envoyé en G League pour qu'il reprenne du niveau et de la confiance avant, ouais. de revenir dans l'effectif de NBA. Et
on rappelle à nous dire que la G League c'est pas c'est une ligue de développement, c'est, ouais. C'est un peu je vais pas dire un centre de formation, mais enfin il y a un peu de tout dedans. Il y a vraiment tout type de joueurs à l'intérieur, donc il va pouvoir s'exprimer quand même.
Ouais, en G League je pense qu'il va dominer, contrairement au NBA où il avait peut-être un peu plus de mal. Là, en G-League, il sera au-dessus du lot.
Il sera au-dessus du lot. Une équipe qui est au-dessus du lot depuis le début de la saison, mais qui s'est inclinée quand même du côté de Briançon. C'est en hockey sur glace. Angers, les Ducs d'Angers ont perdu leur rencontre dimanche contre Briançon. 5-3. Angers, Amiens ce soir à 20h30. Bordeaux, Angers vendredi soir. Et Angers-Rouen dimanche à 16h30. Voilà les trois rencontres à venir en hockey sur glace. On sait que voilà, ils vont se tirer la bourre jusqu'au bout avec Rouen, avec Rouen d'ailleurs. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner pour le hockey sur glace. En rugby, la défaite du SCO, donc 28-17 contre Bagneux. Et en roller hockey, les Hawks ont battu Caen 4-3. Voilà à peu près le tour du 49 niveau sport. Mais on va quand même s'arrêter maintenant sur ce qui s'est passé ce week-end dans la planète foot à Angers. Ce qui a vraiment remis Angers sur la carte en Ligue 1. Voilà, une belle victoire contre Auxerre, 2-0. Troisième victoire consécutive en championnat, cinquième victoire consécutive depuis la Coupe de France, avec la Coupe de France, avec la victoire, ouais. Contre Bagneux, puis après contre Quevilly-Rouen. Alex, je te lance là-dessus. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette victoire angevine ce week-end contre Auxerre?
Je pense que c'est une victoire qui est tout de même très importante, même si dans ma tête j'avais un peu coché déjà le match contre Montpellier parce que psychologiquement on pouvait les mettre à 10 points et c'est ce qu'on a fait, mais ce match là c'était aussi la confirmation avec une contre une opposition qui est promue aussi, et on se dit encore une fois qu'il y a moyen d'aller chercher les 3 points. Donc ça c'est plutôt vraiment rassurant, c'est que le SCO est capable, contrairement peut-être en début de saison, à aller chercher les 3 points face à cette équipe jouable et à en tout cas à être protagoniste dans les rencontres. C'est une victoire qui fait du bien évidemment par rapport à Esteban Le Poll qui reste en forme par rapport à sa dynamique. Également pas de but pris. Je pense aussi au niveau des joueurs, je me mets à leur place, le match a été un peu entre guillemets bouclé rapidement avec ce but et ce carton rouge reçu par Auxerre. Donc je pense que pour eux jouer ce match avec sérénité en se disant bon, on a un but d'avance, plus on a ce carton rouge, ça leur a permis vraiment de gérer le match et potentiellement un peu de se préserver. Et franchement, non, c'est une équipe qui fait plaisir à voir. Tous les joueurs sont au niveau. C'est une équipe qui commence à se faire aussi un nom. On voit un peu plus dans les médias qu'on fait référence au SCO sur pas mal de choses. Franchement, ça fait plaisir. Et puis voilà, Alexandre Dujeu, on en parlait un peu en off. On a l'impression qu'il a trouvé sa formule à la fois dans l'expression collective de son équipe et à la fois dans son 11 de départ. Il a trouvé son avant-centre. C'est le au bout du quatrième utilisé quand même dans la saison qu'il a enfin trouvé son avant-centre. Pareil, ses ailiers, Alevina qui s'impose titulaire, Belkebla qui s'impose au milieu de terrain. Donc on sent qu'on a ce 11 qui est prêt à tenir cette course en maintien jusqu'au bout. Et là aujourd'hui, on est vraiment bien au classement et on savait, ce qui est bien aussi, c'est qu'on savait que la course en maintien allait, je pense, se jouer assez bas, je pense, avec Le Havre, Saint-Etienne et Montpellier. On a cette tendance-là où c'est des équipes qui ont vraiment, vraiment beaucoup de mal, qui vivent un peu des saisons de galère. Et se détacher de ce trio du bas du classement, je pense que c'est une très belle chose. Et ces trois victoires, vraiment, je pense que c'est sûrement d'ailleurs le tournant de la saison. Je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et dire qu'on est maintenu, mais en tout cas, ouais, il y a un tournant et franchement, il faudrait un miracle inversé, on va dire, pour qu'on ne,
ouais, bien sûr,
qu'on ne se maintienne pas. Donc après, voilà, on va pas vendre, voilà, comme je disais, la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ça sent quand même de plus en plus bon. Surtout, voilà, il y a cette dynamique qui est quand même très positive. Et qui est de très bonne augure pour la fin de saison.
Faustin, ton avis avant de parler classement, Esteban Le Pol, maintien ou quoi que ce soit, parce qu'on va y rentrer dans le maintien dans le classement.
Mais ouais, je trouve ce match et cette série de victoires nous apporte vraiment une sérénité, que ce soit dans le jeu ou au classement, on prend l'avance sur le premier barragiste et surtout sur le premier relégable. Mais ouais, ce que l'impression qu'on avait au début de saison, c'est qu'on reposait beaucoup de choses, je trouve, sur Imad Abdelli. Alors que maintenant, il est plus détaché du jeu et c'est plus homogène et il y a plus de sérénité, c'est plus fluide et ça fait plaisir à voir et du coup, ça marche très bien. Il a fallu une demi-saison quasiment pour trouver le système et il arrive quand même à point nommé et c'est pas trop tard et c'est même pas trop tôt. C'est juste parfait pour le SCO, je trouve, dans cette saison. À voir s'ils vont confirmer contre Lens, ce serait un très bel exploit.
Ouais, exactement. On va voir ce que ça va donner contre Lens ce week-end. Avant toute chose, c'est vrai que dans une Ligue 1 à 18, c'est important de faire des séries. Là, Angers en fait une, ça te propulse très rapidement vers le haut du tableau. Après, en off, on en parlait un peu en rigolant. Enfin, voilà, qu'Angers maintenant, il n'est qu'à 7 points des places européennes.
Plus près de l'Europe que du premier relégable.
Exactement, parce qu'en fait, ils ont Angers à 5 points d'avance sur Saint-Etienne, qui est le premier barragiste, qui est le barragiste, mais le premier relégable réellement. Il y a 9 points d'avance sur Saint-Etienne, enfin, sur Le Havre. Donc, cette série fait vraiment du bien. Mais on va rentrer un peu plus dans le classement, dans le calendrier et dans le maintien. Le mois de février va être décisif. On en parlait déjà pour le mois de janvier, mais le mois de février peut être décisif et te dire que fin février tu peux être maintenu parce que tu as la chance et t'as l'opportunité de jouer Le Havre et Saint-Etienne.
Ouais, je regarde là le calendrier et on citait notamment les trois derniers adversaires qui étaient quand même prenables pour le SCO.
Ouais.
Je vois sur les au moins 7 voire 8 prochains matchs, honnêtement. Il y a que Lens forcément qui joue les places européennes.
Oui, mais si tu dois prendre Lens, c'est peut-être maintenant.
La réception de Marseille. Et après on rejoue Brest, on joue Toulouse, on joue Saint-Etienne, on joue Reims qui est pas forcément en forme, il y a Strasbourg en coupe et il y a Le Havre, donc là vraiment oui, effectivement c'est peut-être le deuxième tournant du coup. Je mentionnais le tournant de janvier, mais en février, il y a le moyen de tout simplement d'enfoncer le clou. Et après par contre à la mi-mars, on enchaînera sur Monaco, Rennes et le PSG. Donc là, ce sera peut-être un peu plus compliqué, même la fin de saison. Je pense que c'est mieux d'aborder la fin de saison avec ce matelas de points sur la zone de relégation, puisque on va jouer donc Nice, Lille et un déplacement à Lyon sur la dernière journée. Donc je pense qu'il faut engranger les points le plus rapidement possible avant de se maintenir officiellement.
En étant confiant. Faustin, qu'est-ce que tu penses des prochaines rencontres ? C'est vrai que tu as la chance de rejouer, là, c'est la phase retour qui commence, donc tu vas rejouer les équipes qui sont aussi derrière toi ou dans ta zone. C'est vrai que c'est important de prendre des points.
Bah, ça, vu le calendrier de fin de saison, va pas falloir l'aborder en étant ric-rac au niveau des points assez proche des barragistes ou des relégables. Donc, les opérations qu'est en train de faire le SCO, elles sont juste parfaites. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Fallait prendre au moins 6 points sur les 4 prochaines rencontres. Il me semble qu'on ciblait ça. Ouais. Et il y en a déjà 3 de pris. Après, j'ai envie de dire plus qu'à faire le taf contre le Havre, ce qui, d'après la dynamique, semble être une formalité. Ouais. Donc, le SCO est très bien. Et a de quoi aborder sereinement sa fin de saison.
Et là où ça peut vraiment être un deuxième tournant et surtout ça peut définir la fin de saison du SCO, c'est sur la Coupe de France. Mm-hmm. Si tu engranges tes points face à tes concurrents directs rapidement et que t'es dans l'autoroute rapidement, tu prends tes 30 points en février, etc., etc., et que t'es serein pour la fin de saison. Si tu bats Strasbourg, tu vas en quart de finale. Bah là, t'as une épopée à avoir. Tu mets pas la pression. Mmh. Quand le SCO a été en finale en 2017, c'était une époque où le SCO était dans le ventre mou chaque saison et il jouait quasiment pas le maintien. Donc ces équipes-là, celles qui ont notamment, je pense à Nantes et Toulouse du coup, qui ont gagné des Coupes de France dernièrement, c'est des équipes qui n'ont pas forcément, pendant leur saison Ligue 1, joué le maintien. Ils jouaient plutôt le milieu de tableau et ou alors ils étaient maintenus assez rapidement. Et donc, si le SCO arrive à obtenir, on va dire, ce confort-là, ce matelas de points-là, je pense qu'il y a un parcours à faire en Coupe de France qui peut être très intéressant quand on sait aussi que beaucoup de grosses équipes sont sorties. Alors maintenant, après, ce sera le tirage au sort de ne pas taper le PSG tout de suite.
Ouais, c'est ça, exactement. On rappelle que les SCO, les Angevins, vont jouer Strasbourg, vont jouer à la Méno. Par contre, ça sera à l'extérieur le 5 février prochain. Et en plus, la chance qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont jouer le mercredi donc contre Strasbourg, mais il y a de grandes chances que le match contre Marseille se fasse un dimanche soir à 21h.
Oui.
Parce que Marseille joue régulièrement toujours à 21h avec les matchs européens. On évite de mettre les grosses équipes. En plus, on sera dans les semaines Ligue des Champions, Coupe Européenne et compagnie. Donc, il y a des chances que le match entre Angers et Marseille soit sur un dimanche soir à 21h. Donc, même pour la récupération.
Ouais, voilà.
Ça sera encore abordable pour, même si tu fais un gros match contre Strasbourg en Coupe de France, tu pourras quand même toujours prendre des points ou tenter de prendre des points à domicile tout en ayant, parce que bon, Marseille ne joue plus la Coupe de France.
Oui, c'est ça.
Force à eux.
Exactement.
Force à eux. Bon, force ils à Monsieur Turpin aussi.
Je pense aux supporters de Marseille, ils vont un peu se faire chier sur la fin de saison.
Là, il n'y a plus qu'un match par semaine.
Ah, franchement, ouais. Et puis, en fait, la deuxième place, ils ont moins de concurrence qu'avant.
C'est ça. Donc,
force à eux.
Exactement, c'est ça. Parlons de l'homme en forme du moment. Il a été formé à l'Olympique Lyonnais. Il n'a pas laissé une grande trace à l'Olympique Lyonnais.
Il est parti très tôt.
On voit. Ouais. Mais Esteban Le Poll, c'est vraiment l'homme en forme du moment. Il te faut ce joueur-là qui va te marquer entre 5 et 10 buts, là, où il va s'approcher peut-être des 10 buts, on lui souhaite en tout cas, en Ligue 1 pour te maintenir. Et ils l'ont trouvé enfin, parce que, ouais, ils ont cherché, donc tu l'as dit, avec Nian, avec Bamba, avec Cheikh Sherif au début. Maintenant, c'est Esteban Le Poll. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bon, c'est vrai qu'il a pas laissé une grande trace à l'Olympique Lyonnais, mais.
Non, mais, parce que après, donc il est arrivé, on rappelle, au SCO,
en janvier dernier, je crois.
L'hiver dernier, c'est ça, gros, quand le SCO était en Ligue 2, lui, il était à Épinal. Il a fait six mois excellents à Épinal. Le SCO est allé le chercher. D'ailleurs, c'est dans la vocation aussi de prendre des joueurs de National qu'a eu le SCO depuis quelques saisons, parce que Unai venait d'Avranches, Pépé aussi je crois venait de National, des choses comme ça. Donc ils prennent Le Poll sur ses 6 mois en Ligue 2. Il a été très intéressant par son côté super sub. Il avait peut-être un peu en ça remplacé Baoya, qui avait aussi ce côté super sub, et il apportait une fraîcheur, une grosse activité, et puis un côté assez déterminé sur le terrain. On sentait qu'il avait la fameuse dalle angevine, et il apportait dès qu'il rentrait, même si c'était pour 10 minutes, il pouvait marquer et suppléer notamment Diony quand ça allait pas bien. Quand l'été est arrivé, effectivement, donc Diony, qui était le numéro 9 titulaire l'année dernière, il y a eu cette histoire de contrat et
mis sur le côté,
était mis dans un petit loft, on va dire. Et du coup, comme tu l'as dit, il nous restait dans les pattes, on va dire, 4 avant-centres, donc avec Sherif, un plutôt du centre, et il n'y avait pas forcément de dynamique, un joueur en particulier qui ressortait du lot. Dieng arrivait en prêt de Lorient, ça donnait pas un souvenir très bon à Lorient. Nian à Angers, il avait été mis carrément de côté pendant un
aussi
temps.
Aussi au loft à un moment donné. Hein.
C'est ça. Et donc Sheriff après très jeune, 17 ans, et Le Paul, voilà, qui était cet avant-centre en plus qui pouvait aussi apporter, qui avait peut-être le bon âge aussi pour exploser en Ligue 1. Et rapidement, je crois que ça s'est mal passé au début de saison. Je crois qu'il y a eu quelques mises à l'écart. Ça n'a pas été toujours très rose pour lui sur le début de saison 2024-2025. Donc voilà, comme on l'a dit, Sheriff, puis Nian, puis Dieng. Et puis Le Paul prend sa chance, je pense, avec le match contre Paris. Ouais. Où il rentre et il met cette volée magnifique. C'est quand même pas rien de mettre un but au Paris Saint-Germain. Derrière, du jeu lui fait confiance. Et bon, voilà, c'est but sur but.
Et depuis Bobigny, ouais, c'est clair.
Il marque sur Bobigny, il marque sur Rouen, il marque sur les trois derniers matchs en Ligue 1.
Il marque sur Brest.
Il marque sur Brest, il met doublé contre Montpellier. Ouais. Non, franchement.
Et il marque contre Auxerre.
C'est ça. Et puis quand on voit aussi les performances, je pense à la performance de Dieng contre Lyon où il doit prendre rouge et puis il le prend pas. Je pense à Nian qui a raté un truc énorme à Montpellier encore, où il était vraiment en dedans. Il arrive à point nommé en fait, parce que on avait besoin de ce dernier joueur. On a des bons ailiers, on a un numéro 10 qui est le meilleur joueur de l'équipe. Hein, Abdelli, c'est beau à voir son match contre Brest. Il est phénoménal. Et donc, on avait besoin de ce chaînon manquant en fin de chaîne pour remarquer les buts. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un profil qui est, comme je disais, en tout cas, moi, que j'aime beaucoup parce que, voilà, c'est un mec qui se cache pas, qui court beaucoup, qui a aussi besoin que son équipe soit quand même en jambes. Moi, j'avais été au stade pour le match contre Reims, le match aller. Ça a été, je crois, sa première titularisation. Et en fait, le SCO avait beaucoup de mal à ce moment-là. On était vraiment pas bien et on n'avait pas réussi à le trouver du tout. Mais je sentais déjà que sur ces petites touches de balle, il y avait des trucs bien sentis. C'est souvent propre dans ce qu'il fait, dans les travails de remise, etc. Franchement, non, rien à dire. Il manquait la finition, la confiance. Il l'a aujourd'hui. Donc franchement, c'est tout bénef pour le SCO. On va espérer que ça dure parce que ça reste quand même la Ligue 1. Et que tenir sur 6 mois entiers, ça peut être difficile pour lui. Mais s'il y arrive, franchement, chapeau. Et il aura déjà fait un bon taf en nous faisant cette belle série.
Faustin, est-ce que tu as un avis sur Esteban Le Paul ?
Bah, Alex a un peu tout dit. Hein. C'est vrai que c'est un joueur qui fait extrêmement bien au SCO. Surtout, moi, je trouve, sur son impact physique, l'activité qu'il met sur le terrain. Ouais. On a l'impression qu'il est partout. Il a vraiment cette niaque et cette dallangevine. Ce que le SCO cherchait, quoi. J'allais dire que Nian n'avait pas tellement, ni Bamba Dieg. Voilà, c'est juste super ce qu'il fait. Moi, j'étais étonné de pas trop le voir jouer justement au début de saison, vu ce qu'il est proposé en Ligue 2 où il avait été assez impactant. Et le voir revenir à son meilleur niveau, là, c'est sur les trois derniers matchs, il est toujours titulaire, il marque toujours. Ouais. C'est juste ce qu'on attend de lui, c'est même encore plus que ce qu'on attendait de lui, je pense.
Ah, complètement, ouais.
Parce que là, c'est.
Il dépasse les attentes, ouais.
Ouais, voilà, 4 buts en 3 matchs de Ligue 1, c'est juste excellent.
Ouais. Très très belle opération en tout cas pour le SCO de mettre en valeur ce joueur-là. Maintenant, je sais même, je pourrais arriver à trouver l'information de savoir combien il a été acheté à l'époque. À voir.
Oui, je pense que c'est moins d'un million.
Ouais, je pense aussi. Vu que c'est un peu la tendance en ce moment d'aller chercher des joueurs à pas trop cher. Faustin va chercher l'info.
Tendance, je sais pas, mais je pense que surtout le SCO avait besoin.
A pas trop le choix de toute façon.
C'est ça, pas trop le choix et donc avait besoin de cet attaquant. Et c'est quand même bien senti de la part de. Je pense que c'est Roland Boissier qui a dû aller le chercher. Voilà. Alors, on a eu beaucoup de transferts ratés. Hein. On n'a eu que des très bonnes recrues.
Il est arrivé pour 700 000 euros.
Ouais, 700 000 euros. Voilà.
Ça va.
Donc, franchement, c'est plus que correct. Et franchement, j'ai même envie de dire, c'est très rentable.
Ouais, c'est clair. Après, maintenant, on ne souhaite pas le départ d'Esteban Le Paul tout de suite.
Et je pense qu'il n'a pas un très gros salaire non plus.
Non. Ouais.
Contrairement peut-être à justement Dieng et Nian, hein, c'est concurrent direct.
Avoir, de toute façon, il y aura forcément une opération dégraissage à faire à l'été prochain.
Ah, bah oui, de toute façon.
Donc,
voilà. L'OS Diony, du coup, n'a pas retrouvé de club encore.
Non.
Mais bon.
Bon, il joue avec la réserve encore.
Je crois qu'il joue encore ouais avec la réserve.
Je l'avais aperçu une fois un match des U19. Il vient en tout cas voir les jeunes du centre.
Et moi j'ai couvert deux fois la réserve N3. Du SCO et il était là à chaque fois titulaire.
Ouais.
Il est pas en forme. mais surtout aussi au niveau du moral, je pense qu'il accuse un peu le coup. Donc j'ai envie de dire, on lui souhaite de trouver un club quand même cet hiver.
Parce que c'est un super mec, hein, franchement. Moi, pour l'avoir vu au U19. Vraiment, tu sens que il a investi quand même dans le club. Il va dire bonjour. Enfin, tu vois, il dit bonjour à tout le monde en tribune. Franchement, c'était. J'étais assez surpris et franchement, faut quand même le signaler. Voilà, il vient, il s'était impliqué dans la vie du club pour voir un peu les jeunes venir pour voir comment ça.
Je pense qu'il a commencé à digérer aussi. Mise au placard, je pense.
Ouais. Après, c'est vrai que c'est pas évident aussi quand t'es mis sur le banc comme ça.
On parle de Diony et puis on peut parler d'Unou aussi qui est quand même pour l'instant, je crois, toujours au club.
Ouais.
Pareil, même situation. Là, le niveau est. Parce que Diony, il a quand même encore un peu de football. Unou, c'est pour l'avoir vu. Non, mais en vrai, c'est compliqué. Et c'est presque assez triste de le voir.
C'est dommage parce que tu
galérer contre une N3, franchement.
Mmh. Ouais, mais c'est peut-être aussi que le moral joue énormément.
Ah bah oui, par contre, c'est possible. Oui,
et franchement, ça pèse sur eux forcément.
Et donc, on souhaite de trouver un club. Ouais,
exactement. Faut trouver maintenant le club qui va pouvoir l'aborder. Peut-être qu'il ira peut-être voir s'il y a pas des touches à l'étranger. En des championnats un peu exotiques, non mais Australie, tu vois tout ça, donc
c'est vrai.
À voir. Le match contre Lens ce week-end, quelles sont vos attentes les garçons par rapport au SCO? Est-ce que vous avez un petit pronostic à faire avant de faire la petite pause?
C'est à Lens.
Musicale. Ouais. Oui, c'était à Bollard.
Honnêtement, non, j'avoue que ce serait trop gourmand. Une quatrième victoire de suite, non, faudrait pas abuser. Non, en vrai, je pense que ça va être compliqué. Un nul au mieux. Ouais, je vois un nul même. Je le sens bien le nul parce que Lens est une bonne équipe, mais je pense qu'elle a des failles. Je pense que tu es. En vrai, je pense que t'es le mieux placé pour parler de Lens. Hein,
C'est peut-être le meilleur moment à voir. Ils ont recruté un gardien Lens, donc
oui.
Ils ont pris Matthew Ryan de l'AS Roma, enfin le gardien australien. Hein, donc on va voir ce que ça va donner.
Il jouera contre Angers.
Oui. Oui, il y a des chances. Il a été recruté aujourd'hui.
Il est annoncé, oui.
Ouais, donc non, c'est bon, il va jouer.
Kofi, il donne pas.
Bah, si, c'est un bon gardien, mais il est un peu fantasque, on va dire.
Ok, d'accord.
Et je pense que ça fait un peu peur au staff François. Voilà,
il préfère assurer leurs arrières.
Voilà, c'est Brice Samba en un peu plus fantasque. Donc, donc voilà. Mais bref, maintenant, il y a des failles et il y a beaucoup de trucs au club qui fait que je pense qu'il y a des joueurs qui doivent partir et qui sont peut-être pas forcément investis. Ouais. Ou qui voulait partir et donc c'est un peu compliqué. Donc je pense que d'ici la fin janvier, tant qu'il n'y a pas non plus une clarification qui est faite sur l'effectif réel, je pense qu'il y aura toujours des envies de départ à droite à gauche ou pas.
Fulgini qui va retrouver son ancien club.
Ouais, mais il fait plutôt une saison assez honnête, je trouve.
Okay, ouais,
il fait une saison assez honnête.
Ouais, parce que je crois qu'en début de saison, ça a été très compliqué. Il était benché.
Non, il était sur le banc et tout. Mais il y avait plein de joueurs qui comme ça en fait avaient faisait un peu les frais au niveau des supporters, ils n'avaient pas fait une grosse saison l'année dernière. Fulgini jouait plus, on le trouvait meilleur quand il jouait en Europe, en Ligue des Champions, que quand il était moins investi en Ligue 1.
Contre Séville, c'est quelque chose.
Mais je trouve que là, il est mieux cette année, un peu comme Thomasson aussi. Mais tu vois, ça il y a pas de certitude.
Et donc ça
bouge beaucoup. Au milieu de terrain, ça bouge énormément.
Okay.
Et donc et devant, ils ont eu beaucoup de blessés aussi. Donc
c'est vrai.
Avec Satriano, avec Wesley Saïd. Satriano, il est blessé, c'est fini.
Ah ouais.
Il sera pas, il est ligament croisé depuis le début de la saison. Okay. Donc
Saïd du coup,
Wesley Saïd est revenu la week-end. Donc voilà, Enzola a été blessé à un moment donné, il est revenu.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a Enzola. Ouais.
Non, il y a Koyalipu, donc voilà.
Ah oui, qui a marqué du coup contre
Le
Havre, c'était le Havre.
Contre le Havre exactement.
Il y a 10 jours.
Premier match but, voilà.
Pas mal.
Exactement. Bon, on fait une petite pause musicale. Faustin, si t'as quand même un pronostic ou pas pour
je veux dire, faut pas négliger quand même la dynamique du SCO qui est excellente.
Ouais.
Mais faut pas négliger le fait que ce soit Lens. Donc j'allais sur un match nul, un petit 1-1 ou un petit 2-2, je sais pas trop.
Moi, je vois bien un petit 1-0 pour Lens, quoi. Vraiment le match assez pauvre. Je pense que ça sera pas forcément un très grand match. Voilà, c'est mon avis. Petite pause musicale quand même, Faustin.
Ouais, on va s'écouter un de mes sons du moment, un album que je ponce en ce moment. J'ai jamais poncé un album à ce point depuis la Don Dada mixtape, c'est pour dire.
Ah oui.
Et du coup, on va s'écouter du Jungle Jack. Ce sera XX Files avec en feat avec Alpha One d'ailleurs, qui a fait la Don Dada mixtape. Donc.
Con il giornale, con Jeune hustler, visière tout le monde en cluster. Grosse pinte de ligne, REP, Chad Butler. Problème manteau et peine de cœur. Flash dans le manteau, allume une feuille pleine de fleurs. Sprite bourré comme un stuffer. Je connais des bouts outillés comme les Ghostbusters. XX Files, Vesky, Scully et Mulder. Style fly comme un point de coke, Jack. Je reste high avec plein de smoke. Underground comme une onde sismique. Protège ton âme dans ce monde mystique. Il en faut peu pour que ça se complique vite. Tu peux te faire piéger, liquide suspect dans le cocktail. Réveillé dans une chambre d'hôtel qui sent les fluides corporels. Des histoires bressons, j'en ai plus que Edgar Allan Poe. C'est pas la pauvreté mais la folie qui nous colle à la peau. T'as mis du Louis V, tiens-toi à carreau. Ça passe de la sacoche au sac à dos. Remballe ta taupe, Charles Léo, sac à rose. C'est M6 sort d'un placard rose. Ça se ouvertement, je me demande comment ces boîtes osent. Reconnais quand les vrais cafards posent. Attire les milfs qui pop jouent à Tarax. La queue dans le coquillage comme flagados. Ces types me passent le mic comme on passe un balai à un lion pour qu'il nettoie sa fosse. Le voisin plainte sur tes côtes sans faire de face à face. Pourtant il s'écrase dès que vous êtes l'un face à l'autre. Les keufs tournent comme une broche avec des chamallows. La wax transforme ton cerveau en gaz pas de chaud. Oui, cheesy comme un plat de nachos. Souligne, j'avance comme une tortue des Galapagos. Stylo Timberland parce que j'écrase ta prose.
Crash comme infamasse sur infrabasse. Un seul gâteau, 15 rapaces. Fini flingue ramasse. Ou bien m'halas. Rap suprême écrit dans un palace. Reconnais le one à la bille. Je veux peser comme le roi d'Arabie. Chacun sa clé, on peut pas faire des doubles. Cuisine cette merde et touille. Le produit est vrai, pas besoin de mettre des touilles. Tout droit, sans faire des tours. Gère le charbon, gère les cours comme un tour. Boy, gère les tours. Pourquoi les pointeurs prennent moins que les vendeurs de drogue? Pourquoi je suis comme Jack, un éventreur de prod? Pourquoi ils font les clowns, bandeurs, chanteurs de pop? Je dirais à mes gosses, fuyez devant l'agent. Vous étouffez pas avec vos grosses cuillères en argent. Hein, laisse ma division faire la diff. Négatif, anti-frère factice. Mon plan se déroule comme un préservatif. Bébé, prends ta ventoline, je t'emmène à Santorin. On peut louer des scooters ou un Lamborghini. On veut s'engraisser et pas faire des diètes. Rallume le chalumeau quand le fer est tiède. Je parle direct avec le directeur. Gère les dièses sans intermédiaire. Charbonne comme une chinoise. Je remplis le grimoire au bled dans une jeep noire. On va le faire la vie d'Ouam. Paris Sud jusqu'à Aubert, je suis là, j'opère. Je veux l'argent du liard au père. Que le cash, on passe plus par notaire. Je pesais des tonnes, j'ai deux téléphones. Je suis pas bénévole, bah les couilles. Quel été se fait des formes.
T'enfoncer dans la jungle pour cesser de penser à cette douleur.
Eh bien, c'était Jungle Jack.
Exactement.
Avec XX Files. Ok. Voilà. Et Alpha One.
En fit avec Alpha One. Également.
Exactement. C'est sur Radio G. Vous connaissez mon amour pour les nouveautés rap, mais c'est toujours Faustin qui choisit les titres parce que moi je ne les connais pas du tout. Mais voilà, j'avais sorti un rap allemand si tu veux la dernière fois.
Okay.
J'avais trouvé sympathique et je l'avais mis. On l'avait diffusé à l'antenne il y a quelques semaines. On va quand même évoquer ce qui s'est passé en Ligue 1 ce week-end avant de parler de Ligue des Champions parce que actuellement il y a Monaco qui joue. On va évoquer ce qui s'est passé donc en Ligue 1 avec Montpellier-Monaco 2-1. C'était victoire Montpellier-Rennes. Voilà, on aurait pu espérer une victoire monégasque pour vraiment creuser l'écart avec les joueurs héroltés, mais non, Montpellier s'est imposé quand même 2-1. Donc c'était vendredi soir en ouverture de la Ligue 1. Il y a eu Lille-Nice également à suivre vendredi. Les Lillois ont battu les Niçois 2-1. Lens s'est incliné à domicile 2-1 contre le Paris Saint-Germain. Brest s'est imposé dans le derby breton 2-1 face à Rennes. Lyon-Toulouse 0-0. Très beau match apparemment.
Oh mon Dieu, quel enfer.
Tu t'es fait plaisir ou pas, Alex?
Un enfer. Vraiment un match immonde.
L'abonnement d'Azone est rentable.
Oui, on a reparlé de toi la dernière fois dans ton abonnement d'Azone.
Parce
qu'on y a pensé vraiment fortement à cet abonnement d'Azone.
Et puis surtout, donc, je parlais des piges que je faisais à Ouest France. Il y a des fois où je peux même pas voir les matchs que je veux voir parce que, et puis, bon, là,
Le prix a baissé. Et tu peux,
Bah oui, mais alors, moi, le prix a baissé, donc, effectivement. Mais alors, je pense aussi à ceux qui ont payé 40 euros par mois au début de saison. Là, c'est, à mon avis, ils doivent péter un câble.
Ouais. Parce que toi, t'as pas pu négocier derrière ton prix d'abonnement.
Ah non, j'ai même pas recherché parce que je sais qu'ils vont m'escroquer, donc, non, j'ai pas cherché.
Vivement l'année prochaine, du coup.
Ouais, ouais, bah, on verra. On verra si je joue ou je joue pas, ouais. Parce que,
voilà, on verra à quel prix aussi.
Bah, voilà, ça.
J'aurai peut-être pas le même budget aussi. Enfin, voilà, on verra bien.
Parce qu'en plus, apparemment, ils sont pas trop satisfaits de leur nombre d'abonnés. Donc, du coup, ils veulent renégocier le contrat déjà. Donc, à voir comment ça va se passer les prochaines
parce
fois.
Parce que déjà, Abin a déjà fait.
Ouais, exactement.
Ce qui est une honte, mais bon, c'est un autre débat.
C'est un autre débat. Mais on va en parler un jour. On va vraiment en parler parce que c'est vraiment très honteux ce qui se passe, en tout cas, autour de la LFP. Mathéo est vraiment remonté aussi par moments. Donc voilà, Saint-Étienne Nantes un but partout, donc la victoire du SCO donc 2-0 contre Auxerre, Le Havre Reims, enfin Reims Le Havre un but partout, et donc un Marseille Strasbourg dimanche soir un but partout, énormément de matchs nuls lors du week-end, enfin surtout le samedi et le dimanche, mis à part la victoire du SCO, il y a que des matchs nuls. Donc vraiment merci au SCO d'avoir été là dimanche parce qu'on n'aurait pas vu forcément une victoire en Ligue 1. On va évoquer maintenant la Ligue des Champions avant d'évoquer la grosse partie, la grosse actu avec toi Faustin aussi en France. Parce qu'il va se passer un très très bel événement dans quelques jours. On va évoquer la Ligue des Champions quand même avec Monaco Aston Villa, c'est en cours Alex, et je crois que tu as un œil sur le match.
Ouais ouais, actuellement donc toujours 1-0 pour Monaco contre Aston Villa, donc c'est une victoire qui peut faire beaucoup de bien à Monaco, sachant qu'Aston Villa cartonne assez en Ligue des Champions, donc c'est limite un concurrent direct au top 8.
Ouais.
C'est une bonne nouvelle, il reste 15 secondes dans le temps imparti, après il y aura le temps additionnel. Et donc voilà, une belle équipe monégasque.
Ouais.
Qui peut faire un bon parcours. Après, je sais pas qui joue en dernière journée, mais s'ils peuvent aller chercher ce top 8, c'est toujours bien.
Ils jouent une grosse équipe, il me semble, de mémoire. Mais voilà, pour l'instant, Monaco, ils sont 9e, ils se replacent tout doucement dans ce.
C'est peut-être l'Inter, je crois,
ouais,
c'est de mémoire.
C'était une grosse équipe, ouais. Donc, on va voir ce que ça va donner pour Monaco. En parlant de grosse équipe, il y a le leader ce soir. Le leader qui va jouer contre Lille. Liverpool-Lille, ça va être un match à ne pas manquer à 21h ce soir. Après l'émission, vous allez pouvoir
démarrer tout de suite. Tu vas être pour qui du coup
Ah, mais moi tout de suite, je suis pour Liverpool.
Ah, au moins c'est clair.
Ah, je vais pas faire le faux cul et voilà. Même si ça me ferait plaisir pour Pep Genesio,
Bruno Genesio.
Pour Bruno Genesio, parce que je l'aime bien.
C'est vrai qu'il y a toujours ce débat de est-ce qu'on est pour les clubs français, même quand tu supportes un club, est-ce qu'on est pour les autres clubs français. C'est toujours un débat. Des fois, même moi, je suis un peu partagé.
Ouais.
Genre
Saint-Étienne en Ligue des Champions.
Alors Saint-Étienne, bon, ça va, je suis serein. Mais tu vois, des fois, donc Paris, c'est bien quand même quand ils vont loin et tout. Ouais. Forcément, ils sont en UEFA.
Ouais.
Mais il y a un côté quand ils perdent, il y a
un côté jouissif.
C'est ça, il y a un côté un peu comme ça. Et vraiment, j'attends le match de demain. Tu vas peut-être en parler après, mais avec impatience, parce qu'il y a le côté l'odeur du sang.
Ouais.
Et ça peut être même le côté entertainment de si ils perdent l'après-match,
ça
va être fou.
Ah ouais, ça va être fou. Mais on va en parler tout de suite, parce que bon, on va évoquer bon Liverpool-Lille ce soir. Ça va être le match à ne pas manquer. Et on sait que on le disait en off, et on va le faire rapide. S'il y a bien un entraîneur qui peut taper Liverpool dans son destin et dans son histoire, c'est lui. Il a quand même un beau tableau de chasse, le père Genesio. Donc voilà. Mais maintenant, c'est vrai que le match le plus important, celui que tout le monde attend et celui que tout le monde attend depuis le début de l'année 2025, la fin de l'année 2024, c'est celui-là. C'est le Paris Saint-Germain Manchester City, quoi.
Bah oui, deux équipes qui sont en fait en mal de points. C'est surtout pour ça que ce match est important.
Ouais.
On imaginait peut-être avant la saison, que ça c'était un match pour le top 8 ou pour les premières places. Là, c'est un match pour se qualifier dans le top 24, même si c'est plutôt mieux embarqué pour City, même s'il y a qu'un seul point d'avance sur le PSG. Et si le PSG perd, ça va devenir compliqué.
Ouais.
Et en fait, ce qui se passe notamment, c'est que Stuttgart ce soir est à égalité de points, s'il me semble, avec le PSG. Stuttgart joue le Shakhtar, je crois. Donc
non, le Shakhtar, c'est Brest.
Il joue le Slovan Bratislava, donc voilà. Sûrement l'une des pires équipes du tableau.
Ouais.
Son enfance pour tous les Slovaques qui nous écoutent. Et donc, si Stuttgart gagne ce soir, ce qui est quand même un peu à pronostiquer, on a le PSG qui du coup perd 3 points sur Stuttgart et qui joue Stuttgart sur la dernière journée. Donc Stuttgart va jouer à fond sur la dernière journée. Donc le PSG a tout intérêt à l'emporter. City également pour se donner de l'air pour rester en top 24. Mais je dois donner un pronostic, je verrais plutôt un nul parce que je pense que le nul arrange les deux équipes.
Arrangera tout le monde, ouais.
Et que je pense que si le scénario du match ne bascule pas rapidement pour une ou des deux équipes, eh ben je vois clairement à partir de 60e, s'il y a 0-0 un partout, ça se serre la main, ça fait tourner de chaque côté et ça prend son point parce que je pense que les deux équipes auront intérêt à faire nul. Donc,
Faustin, ton avis sur le match de demain?
Là, c'est les deux équipes jouent gros en fait. C'est, j'aurais du mal à moi à trouver un pronostic là parce que en même temps, City est vraiment moins en forme en ce moment, ouais. En tout cas en PL. Donc
ça revient bien.
Ça revient tout doucement. Ça arrive. Après, ils ont joué Ipswich.
Avant, ils avaient fait 2-2 contre Brentford.
C'est pas dingue.
Voilà, c'est quand même. Ils sont un peu boiteux en ce moment, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est faisable pour le PSG. C'est le moment de le faire. Moi, je vais être supporter parisien pour une fois. Même moi, j'ai rien contre le PSG. Hein. Je sais que mon père déteste le PSG. Ah. Mais bref, voilà. S'il nous écoute, bisous papa. Mais du coup, je vais être parisien demain soir. Et j'espère quand même qu'on va pouvoir avoir tous les clubs français au moins dans les 24.
Oui, pour la deuxième phase. Mais c'est bizarre parce que bizarrement, tu n'étais pas parisien l'année dernière contre Barcelone. C'est étrange. Bon,
bizarre.
C'est peut-être un hasard.
C'est un hasard.
Sûrement un hasard.
Non, mais alors moi, je vais même aller plus loin que vous. Je pense que demain, il y a une victoire parisienne.
Oh.
Victoire parisienne. Et je me dis que cette victoire va être un peu un acte fondateur. Alors, je suis pas supporter parisien. Je veux te dire, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de familles supporters parisiens. Mais voilà, je les embrasse. Mais le problème, c'est que je pense que c'est même pas un problème. Je pense que demain, il y a victoire du Paris Saint-Germain demain contre Manchester City. Et que du coup cette victoire va emmener le Paris Saint-Germain même dans les carrés. Je le sens truc où ça va les lancer. Okay. Ça va vraiment lancer leur saison, en tout cas en Europe, parce qu'en Ligue 1, je veux dire, il y a plus rien à jouer pour en Ligue 1. Oui. Je veux dire, on l'a bien vu encore ce week-end. Moi, je les ai vus contre Lens. Enfin, les mecs jouent en marchant, mais ils ont besoin de forcer dès qu'ils accélèrent C'est terminé. Il y a victoire au bout derrière pour eux.
D'ailleurs, s'ils peuvent commencer à lâcher des points pour la Ligue 1,
c'est pas mal.
Monaco vient de gagner.
Ah bah voilà, victoire de Monaco, donc c'est intéressant pour eux.
Mais ouais, pour Paris, c'est vrai que j'ai du mal à aller voir au dernier carré pour l'instant. Ben après, il y a Gvara qui est arrivé.
Ouais.
Je dirais pas son nom entier parce que je parle pas géorgien. Mais j'ai quand même des doutes par rapport justement à l'avant-centre. Qui n'ont pas encore, je pense, trouvé.
Oh, si, Gonzalo Ramos, je pense que c'est long. Ils l'ont, mais faut qu'après, faut que Luis Enrique joue enfin avec un 9, quoi.
Pour l'instant, je suis pas encore convaincu, mais ouais, à voir demain, ce que ça peut faire. Je suis curieux de voir ça. Mais par contre, ça peut virer au fiasco, parce que si le PSG ne va pas dans les 24.
Ah, le drame derrière, ça va être incroyable.
J'espère que vous allez tous arriver en émission en défonçant le PSG, parce que c'est pas possible.
Non, c'est clair.
Matteo va hurler dans le micro, je veux voir des trucs comme ça.
Si les trois autres clubs français sont dans les 24 et pas le PSG.
Si Brest est dans le top 8, mais que le PSG n'est pas dans le top 24,
ce serait la
honte. En ayant joué Barcelone et le Real, en plus, Brest, on en parle vite fait, ils jouent demain à 18h45 Brest contre Donetsk et ils vont jouer le Real dans une semaine au Rodoro. Donc ça promet encore.
Là, ce qui est fou avec Brest, c'est que là, du coup, il y a quand même 3 points qui sont très jouables.
En gagnant demain, je pense que tu t'ouvres le top 8 là, ils sont très fortement.
Là, ils sont 8e à 13 points.
Ouais. Sans jouer.
Franchement, s'ils gagnent, le top 8, il est pas dans la poche. Mais
pas loin, pas loin.
Peut-être que s'ils prennent un gros score contre le Real, tu vois, s'ils prennent un 5-0,
ce qui est possible.
Peut-être que ça peut jouer en défaveur au niveau du classement parce que ça va être très serré. Ouais. Mais honnêtement, s'ils gagnent demain,
faut que je regarde la façon de faire pour le 16e, parce que là, il va y avoir le 16e. Va arriver très vite, hein, parce que là, ils jouent la semaine prochaine, mais après, derrière.
Le 9e joue 24e, le 10e joue 23e, etc.
Ça promet, parce que.
Brest-PSG.
Hein?
Un Brest-PSG.
Un Brest-PSG en 16e final, ça sera incroyable.
PSG-24.
C'est possible. C'est vrai que du coup, il n'y a pas ce côté français.
Parce que pour l'instant, entre le 9e et le 24e, t'as quand même actuellement Dortmund, Bayern, Atlético, Milan, Juventus, Real Madrid et City.
Et potentiellement
pas les PSG.
Donc honnêtement, il y a intérêt à être dans le top 8.
Et ceux qui sont bord top 8 dans le haut du tableau, c'est quand même, pour l'instant, qu'ils sont pas encore qualifiés sûr et certain dans le top 8. T'as Arsenal, t'as Leverkusen, t'as Inter, t'as Aston Villa.
Ouais.
On va dire que les seuls qui sont pour l'instant, je trouve, qui vont être intouchables, c'est Liverpool, Barça et Atalanta. La fierté, la fierté de Faustin derrière quand tu évoques le Barça quasiment qualifié. Alors là, le regard.
Évidemment. Et en Liga, évidemment. C'est comment le Barça?
Non, mais après, la Ligue des Champions, c'est bien.
Oui, oui, voilà.
Non, mais on a gagné la Super Coupe.
C'est ce que j'allais dire. Oui. Il est arrivé fier la semaine dernière dans l'émission.
Je peux le comprendre.
Regardez mon fond d'écran.
Moi, j'étais moins fier, j'avoue. Moins fier. C'est comme ça.
Bon, c'était l'actualité football de la semaine, hein. Ligue 1, Ligue des Champions. On va forcément évoquer le reste la semaine prochaine parce qu'on sera au cœur d'un potentiel drame ou d'une potentielle qualification parce que ça va s'enchaîner, hein. La dernière journée, la huitième journée de Ligue des Champions avec la nouvelle formule, c'est la semaine prochaine. Donc, on va voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Donc, dans l'émission, est-ce qu'on aura du grain à moudre, on verra quel sera le sommaire la semaine prochaine. On va évoquer le gros sujet avec toi, Faustin. On a quand même 10 belles minutes devant nous.
Ouais.
Quasiment. Est-ce qu'on va gagner 5 minutes pour parler de l'Open d'Australie et aussi du handball, mais on a 10 minutes pour parler de ce qui va se passer ce jeudi. Et en plus, t'as la chance d'y être. On a un autre envoyé spécial pour Génération.
Ouais, c'est vrai, tiens.
J'ai les Paris Games.
Le NBA Paris Games.
Ça coûtait très cher au Père Noël, ça.
Ah ouais, le Père Noël de l'anniversaire, tout y est passé. Mais c'est pas grave, c'est mon rêve, moi, complètement, d'aller voir un match de NBA. Ah en ouais. plus.
Donc, attends, c'est tes parents qui t'ont offert ça ou pas?
C'est mes parents qui m'ont offert ça.
Donc, tu dis à l'antenne que t'es fan, que tu seras supporter du Paris Saint-Germain ce soir, demain soir.
Tu remercies tes parents. L'ingratitude.
Je les ai remerciés déjà. Enfin, bref.
Ouais, vas-y.
C'est pas grave, je suis fan du Barça comme mon père.
Enfin, bref. Ouais, exactement.
Après, lui, il est pour nous. Enfin, bref.
Non, t'inquiète pas.
Mais ouais, du coup, jeudi, il y a le NBA Paris Game à Bercy. Il y aura du coup un match jeudi, un match samedi. C'est la première fois qu'il y a deux matchs et deux fois les mêmes rencontres. Donc jeudi, c'est Pacers contre Spurs et samedi, c'est Spurs contre Pacers. C'est pas la même chose, attention.
Ouais.
Parce que du coup, on va dire, moi, j'y serai le jeudi donc pour le Pacers-Spurs. Et ça va me faire bizarre. Je pense que quand les Pacers vont devoir défendre, il va y avoir le defense qui va être dans la salle. Alors que tout le public sera pour l'attaque.
Les Spurs,
pour les Spurs, hein, à mon avis, clairement, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais ouais, en plus c'est une belle affiche, hein. Des équipes qui montent petit à petit. Les Pacers, on aurait peut-être préféré les voir jouer l'année dernière que cette saison.
Ouais, c'est clair. En début de saison, c'était mieux. Ouais.
Mais ouais, là ça va encore. Ils sont cinquième à l'est, 24 victoires et 19 défaites. Et les Spurs, ils sont 12e à l'ouest avec 19 victoires et 22 défaites, c'est ça.
Ouais.
Donc au niveau des bilans, c'est assez proche. Mais on a quand même deux équipes qui peuvent être assez irrégulières. On peut avoir un blowout, c'est ce qu'on espère pas évidemment.
J'espère pas pour toi jeudi soir en tout cas.
Bah ouais, c'est ça. Je serais pas déçu. Hein,
non, quoi qu'il arrive.
Mais ouais, ça risque d'être quand même un beau match avec un peu de spectacle. Les Spacers, on sait que c'est une équipe très 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 offensive.
Ah oui.
Et très 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 peu défensive.
Ouais.
Donc Victor Wembanyama va pouvoir se faire plaisir. On a envie de le voir faire une grosse perf et je pense que lui, il a encore plus envie de faire une grosse perf devant son public.
Forcément.
Ça me paraît évident. Et ouais, j'attends. J'espère que ce match va tenir toutes ses promesses. Je serai comme un ouf. Et peut-être que j'essaie de mettre des choses sur les réseaux sociaux.
T'es loin ou pas au niveau tribune ou
niveau
pas
tribune, je suis milieu, on va dire. Je suis dans un coin.
Ouais.
Mais je suis, on va dire, quelque chose comme... j'ai pas trop l'ordre d'idée. Peut-être 25e rang, je dirais, en comptant les courtes sides. Donc
ouais,
ça va encore.
Ouais.
Voilà, j'essaierai peut-être de gratter, d'essayer d'aller plus proche du terrain si je jouais des places de ligne, mais ça m'étonnerait.
Ouais.
Je sais qu'il reste quelques places à...
Combien les places qui restent là, je sais pas.
C'est les places qui restent, c'est à 500, un peu plus de 500 euros.
Ah oui.
Ouh là là.
Oui, mais en même temps, ouais, c'est un match NBA forcément en France, donc et c'est bien que ça soit à Paris. Après, il y a Victor Wembanyama qui t'apporte la chose. Hein. On rappelle que le retour en Europe s'était fait aussi à Londres à un moment donné. C'était une question de se poser de faire ça. Donc du coup, en Angleterre, mais là, du coup, c'est en France maintenant. Je pense que pour de nombreuses années, ça sera en France aussi. Tout dépend aussi de l'ambiance. Je pense que l'ambiance va jouer beaucoup.
Ouais, je pense que l'ambiance sera au rendez-vous. Les dernières années, c'était quand même pas mal. Déjà, les joueurs le disaient que c'était différent déjà des salles de NBA.
Ouais.
Et que l'ambiance était au rendez-vous. Et si la NBA a continué à faire confiance comme ça à la France, même avant Victor Wembanyama, il y a eu plusieurs éditions de ce NBA Paris Game. C'est-à-dire que l'ambiance est au rendez-vous et que ça plaît aux joueurs, aux spectateurs et à la NBA tout simplement, à la Ligue.
On sait que les supporters français font énormément de taf là-dessus, hein, parce que c'est vrai que pendant les Jeux, il y a eu de grosses ambiances pendant les Jeux. La NBA, les années précédentes, il y a eu de la grosse ambiance. Comment dire, Cédric qui serait là, je me souviens de mes premières fois dans l'émission ici, on était en poste quasiment gros événement de catch en France et ça avait été un truc porteur de dingue à Lyon dans une salle beaucoup moindre que celle que l'Accor Hotel Arena. Donc vraiment les Français quand ils reçoivent des gros événements, ils sont toujours au rendez-vous.
Ouais, Roland Garros aussi.
C'est vrai, Roland Garros aussi, il y a toujours une grosse ambiance.
Quand
c'est
tu compares
particulier.
Là, à l'Open d'Australie à Roland Garros, honnêtement, il n'y a pas de.
Ouais. De plus en plus.
Grosse diff. Hein.
Ouais, de plus en plus. Exactement. Et on va évoquer, tiens, l'Open d'Australie dans quelques instants, rapidement après, avant de passer au handball avec toi à la fin. Mais, bon, victoire des Spurs, t'en as parlé un peu la semaine dernière, mais quel est ton vrai pronostic maintenant, là, avec ce côté à 48 heures de l'événement?
Ouais, 48 heures de l'événement, un pronostic de score, c'est toujours un peu impossible en NBA. Mais je dis déjà que les deux équipes taperont au-dessus des 110 points, je pense.
Ouais.
Ça va être un match assez ouvert. En plus aussi, tiens, on a eu Stephen Castle qui a annoncé au Dunk Contest, peut-être qu'il essaiera de prouver quelque chose dans le match. J'espère un bon petit poster. Bref, mais sinon, ouais, je sais pas, je peux pronostiquer une paire de victoires. Je crois que je l'avais dit déjà la semaine dernière, même j'avais dit quelque chose comme 41 points, 12 rebonds. 10 passes D, allez.
Ah, triple double.
Triple double et j'ai dit 4 contre.
C'est
4
hyper contre. Précis.
C'est très précis. Alex, est-ce que tu vas regarder la rencontre ou est-ce que tu auras un œil dessus?
Donc c'est jeudi.
Elle passe en clair, hein. Elle passe en clair sur Canal.
C'est jeudi et samedi. Ouais. Bah écoute, oui, s'il y a moyen. Après, ça joue peut-être en même temps que Lyon, donc on verra
c'est
bien.
Jeudi 20h et samedi 18h.
Ouais, à voir. En vrai, oui, franchement, si à un moment donné, oui, je peux me poser, ouais, je le ferai sûrement, ouais. Bien sûr, ça peut être intéressant parce que c'est vrai que, bah, à la NBA, on n'a pas l'habitude d'avoir en France parce que c'est complètement décalé, en tout cas quand on n'est pas fan de basket ou qu'on regarde ça de loin. Et donc c'est l'occasion parfaite, il y aura de l'ambiance, il y aura Wemby, ouais, s'il y a moyen, pas de souci.
Eh bien, on va te souhaiter, comment dire, une belle aventure jeudi soir.
Merci.
Et puis on va forcément la débriefer mardi prochain.
Évidemment.
Dans l'émission.
En mais, non, mais, on, travers.
Ah, mais vraiment, je pense que ça serait intéressant de faire un. Ouais, pour t'aviser la place. De faire vraiment de. Peut-être pas une interview, mais de vraiment. De se poser et de débriefer un peu cet événement parce que ce que tu auras vu sur place
et parce que c'est toi en conf de presse.
Bah franchement je vais essayer, hein. J'arrive assez tôt. Bon, faut pas le dire, mais je sèche mes deux cours de l'après-midi.
Bah non, faut pas le dire, non, tu le dis pas alors.
Non, mais tout le monde est au courant, même les profs, c'est pas grave. Mais bref, du coup, bah, j'y arrive assez tôt avec mon père pour essayer justement, même après le match, essayer de, je sais pas, dégoter, même taper dans la main d'un joueur, je serais comme un ouf.
Ouais, bah, t'as raison.
Voilà, de voir même des journalistes.
Profite de l'instant à fond, c'est clair.
Je vais gratter tout ce que je peux.
C'est un moment d'une vie.
Si tu peux me faire une photo avec Georges Eddy, moi, ça serait, moi, c'est mon idole, ce mec-là.
Je vais essayer.
Donc, fais une photo avec Georges Eddy et tu, franchement, c'est magnifique. Bon, il n'y a pas de Georges Eddy pour commenter cette discipline, Alex, qui te tient à cœur, mais voilà, le hand, on est en plein dedans, champion du monde actuellement. France-Hongrie ce soir.
France-Hongrie ce soir, ouais.
Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Alors, bah, déjà, pour un peu donner de contexte, donc, c'est les mondiaux. C'est, il me semble, du coup, les premiers mondiaux, avec autant d'équipes. Ouais. Je crois qu'on a augmenté le nombre d'équipes, sur ce mondial. Du coup, il y a deux tours. On a fait les trois premiers matchs du premier tour face à des tout petites équipes.
Qatar, Autriche, Koweït.
C'est ça. Donc, c'est des équipes très abordables. Trois victoires sans encombre qui ont vraiment rassuré les Bleus. Là, on va aborder le tour principal. Donc, on regroupe les trois premières équipes de notre poule plus les trois premières équipes d'une autre poule, avec donc la Hongrie, tu l'as dit, les Pays-Bas et la Macédoine du Nord, il me semble. Et à l'issue de ces trois matchs-là, donc ça définira un classement avec aussi les rencontres précédentes. Et après, c'est directement les quarts de finale. C'est pas tout de suite les demi comme auparavant. Et donc voilà. Pour parler du tournoi dans sa globalité, le Danemark est évidemment grand favori. On regardera forcément du coup la France, la Suède, mais aussi du coup l'Espagne. Donc voilà, pour faire un peu le tableau. Match important donc ce soir contre l'Hongrie qui avait fait un bon Euro 2024. Et puis au niveau de l'équipe de France, j'ai pas pu voir de match, si je suis parfaitement honnête, parce que je travaillais à chaque fois sur les trois premiers matchs. Mais je suis rassuré au niveau du collectif, de l'effectif, parce qu'on avait beaucoup de blessés pendant un temps. On en a toujours quand même avec Desca et Quentin Mahé, mais dit quand même était pressenti pour être forfait, finalement il est là et il est même titulaire. Prandi pareil, il était pressenti pour être blessé, il sera là, enfin il est là, et donc c'est plutôt positif. J'avais un peu peur de la, justement, de la gueule de l'effectif un peu après les JO avec beaucoup de retraites, etc. Mmh. Finalement, cette équipe, je trouve qu'elle a quand même fière allure et que, bah, maintenant, on va aller le plus loin possible. Et un peu comme on le disait pour les filles sur la Norvège à l'Euro, bah, on attend le Danemark, j'ai envie de vous dire. Ouais. Même s'il y aura d'autres gros rendez-vous, évidemment, puisqu'on a, on rappelle quand même que les JO sont pas bien passés. Mais je pense qu'on peut taper toutes les équipes. Et Danemark, ça reste, je pense, un cran encore au-dessus.
Bon, on va voir dès ce soir contre la Hongrie à 21h. C'est sur TFX. On va quand même donner la chaîne. C'est en clair et c'est une chance de voir du handball en clair. Pour clôturer cette émission, on va quand même parler de l'Open d'Australie. Ça fera plaisir à Lucien dans mon collège. Hein. Il m'a demandé de parler de tennis. Donc forcément, on parle de tennis. On fait plaisir aux élèves quand même de temps en temps. Mais là, il y a une grosse actu. D'ailleurs, je le salue, Lucien. Djokovic a battu Carlos Alcaraz, le gros match. Ouais. C'était aujourd'hui en quart de finale. 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Il a encore fait le coup de la blessure. Ouais. Il a encore fait le coup du « je vais peut-être abandonner » et le Serbe. Et il l'a refait et il a réussi à le battre. Donc,
il a eu un gros niveau. Hein. Franchement.
Ouais. Après, il a déployé 37 ans. On rappelle quand même que Novak Djokovic.
C'est monstrueux. Attends, mais surtout, j'ai vu une stat de malade mental. Il en est à sa 50e demi-finale de Grand Chelem.
C'est énorme.
C'est une dinguerie, ça que j'ai calculé.
C'est énorme.
C'est comme si tu fais toutes les demi-finales de Grand Chelem pendant 12 ans et demi.
Ouais.
C'est juste
et
fou.
Puis, il a 24 tournois du Grand Chelem.
Oui, déjà. Donc, déjà, c'est déjà énorme.
Donc, s'il fait 25, t'imagines, il aura gagné, la moitié des demi-finales qu'il a disputées, quoi. Enfin, même pas, il a gagné plus que ça, parce qu'après, il a perdu en finale, je crois qu'il a dû perdre au moins 8 ou 10 fois en finale.
C'est pas mon préféré des plus gros, mais faut admettre que, il est énorme. Il est énorme, et puis là, surtout sur ce match-là, il a été monstrueux.
Il a battu donc Carlos Alcaraz. Il affrontera en demi-finale Zverev en demi-finale. Les autres rencontres, c'est Shelton, Sonego et Sinner, demi-nord, ça sera dans la nuit, qui vont arriver. Donc voilà, Sinner a peut-être plus de chances d'aller en finale quand même, vu la confrontation. Du côté des femmes, l'Espagnol Badoza a sorti Coco Gauff. Sabalenka, tête de série numéro 1, sort Pavlyuchenkova. Et ensuite, on a donc Svitolina, la dernière, on va dire française, on va s'accrocher vraiment aux dernières branches qu'on a. Mais Svitolina, donc la femme de Gaël Monfils, va affronter Madison Keys, l'américaine, et Navarro, l'américaine également, on va jouer contre Swiatek, c'est dans la nuit à venir. Voilà, pour l'Open d'Australie, on évoquera les vainqueurs la semaine prochaine dans l'émission. Alex, ce fut un plaisir de te avoir.
Un plaisir partagé. On a passé une très bonne émission.
Ouais, on a bien rigolé. On a parlé sport, on a bien rigolé quand même. Voilà. Ouais, mais c'est le plus important.
On peut pas faire mieux.
Parler sport, dans la joie et la bonne humeur. Voilà. On évoque les rêves et les passions de Faustin. Voilà. Il va vivre son rêve dans 48 heures et ça me fait plaisir pour lui. Franchement, vraiment, je suis très heureux pour toi.
Bah, ouais, merci.
Je suis très heureux pour toi. Non, vivre un rêve comme ça à 20 piges, même pas 20 ans, c'est beau.
C'est franchement. Incroyable.
Voir un match au NBA, même si c'est à Paris, c'est très très bien. Et donc on espère que tu vas très y aller. Tu vas passer donc de la salle Paradis
à Bercy. Il va falloir mouiller la nuque parce que c'est vraiment différent.
Mais bon, l'ambiance sera peut-être moins bonne, on ne sait jamais, parce que je trouve qu'il y a une très bonne ambiance à Paradis.
Et surtout, il n'y a pas de mur d'escalade à Bercy. Et ça, c'est vraiment, faut le dire.
Et ça, c'est beau. Bon, on va laisser l'antenne à la suite à nos collègues sur Radio G.
L'imaginaire.
Et l'imaginaire, exactement. Et on se retrouve la semaine prochaine dans Génération Sport. Ciao, ciao.
Le jour où on m'a dit